contraintes, j'ai beaucoup ce temps de 18 heures, parce qu'au niveau de la philosophie, je n'adhère pas totalement à sa méthodologie. Vous disiez, vous sembliez dire que à des époques, disons, de l'Antiquité très haute, il n'y avait pas de raison de penser que la religion soit indemne, disons, d'accusations de violence. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur cette période de guerre justifiée par des questions religieuses. Au contraire, les affrontements entre les cultures montrent plutôt que les entités religieuses des différentes cultures semblent, dans la religion, dans la région, disons, égypto-mésopotamienne, traductibles de l'un à l'autre. Par exemple, la déesse Hathor, c'est la Baalat des Cananéens, etc., etc. Et ils sont d'ailleurs tout à fait disposés à voir chez eux le culte de l'étranger, ça ne pose aucun problème. Par contre, et c'est là que Yann Asman est mon argument, au moment où s'établit véritablement ce qu'on peut appeler le monothéisme, parce que là je suis tout à fait d'accord avec vous, d'un point de vue de la typologie, on ne peut pas être aussi binaire, et ce que vous dites à la fin, en citant l'émir Abdelkader, est d'ailleurs très très beau et superbe, et c'est presque ce qu'on trouve dans un autre essai d'un autre égyptologue qui s'appelle Eric Karnoun, qui s'appelle à propos de la religion égyptienne, l'un et le multiple. Je reviens à Asman. Son idée, c'est que, le test, disons, que je voudrais introduire, c'est celui de la réception de la religion dite monothéiste dans la culture égyptienne, du moins dans sa survivance de la période ptolémaïque, à travers, par exemple, notamment le problème de Manéthon, qui montre bien le rejet de ces idées du fait de leur exclusivisme. Le problème, c'est cela, c'est-à-dire ce que Yann Asman appelle la coupure mosaïque, c'est l'introduction révolutionnaire, comme vous l'avez d'ailleurs suggéré plus ou moins, et non pas progressive, par des intermédiaires, par des étapes comme les monothéistes. C'est véritablement une révolution que de dire qu'il y a la bonne religion, il y a le bon Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est une violence terrible pour les autres cultures qui le reçoivent. Et c'est ce qu'on constate dans le cas, disons, de Manéthon ou d'autres penseurs de la survivance de la culture égyptienne antique. Donc je pense qu'il y a quand même, il faut être méfiant, mais moi il me semble quand même qu'il y a une certaine violence, intellectuelle au moins, inhérente à l'idée d'un exclusivisme, même si, bien entendu, on trouve dans toutes les religions des mots qui adoucissent ça. Par exemple, l'islam, qui, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, assez dur là-dessus, il y a quand même, je ne serais plus vous le citer en arabe, il faudrait que je fasse un effort, mais il y a quand même la remarque qui dit que nulle contrainte doit exister en religion. Donc voilà, je reste là pour l'instant.
Je crois qu'il est bien que la parole circule et on ne veut pas faire séparer. Je vais dire mon mot, mais... C'est que je crains beaucoup dans le slogan de notre société, c'est-à-dire les religions sont violentes, les religions sont violentes, les religions sont violentes. Je crains que ce discours-là ne blanchisse et ne jette un voile sur des violences qui, à mon avis, sont beaucoup plus profondes que ça. Et au XXe siècle, les violences des nationalismes, les violences économiques, les violences du libéralisme sont terribles, terribles. Et je ne voudrais pas que le discours sur les religions sont violentes, que je suis prêt à entendre, parce que c'est vrai dans l'histoire, il y a des choses vraies dans l'histoire. Il ne faudrait pas que ce discours-là soit un discours qui, comme fonction, de cacher la violence du libéralisme, idéologie dans laquelle nous sommes noyés, abrutis par les médias aujourd'hui. Je le dis comme je le pense.
Parce que, il ne me semble pas, dans les religions telles que celle de, des pays aztèques, il y a eu ce développement. Dans les religions africaines, non plus.
Maintenant, la question, mais c'est plus qu'à me répondre. Est-ce qu'il y a un lien entre le développement du messianisme
monothéiste.
Du messianisme monothéiste et du capitalisme. Je crois que vous pouvez rapidement répondre oui. Rapidement répondre oui, c'est après que ça se complique un peu la question. Évidemment, on passe aux travaux qui ont été faits dessus, mais Weber et compagnie, bien sûr. Il y a sûrement des gens qui ont des choses à dire là-dessus. Oui, bien sûr, on peut disserter là-dessus. On peut disserter. Le problème, c'est que j'ai peur toujours quand on est pas sur des grosses questions comme ça, d'être très approximatif et vite de tomber dans des propos trop faciles. Mais évidemment, la désacralisation, par exemple. La désacralisation des choses, de l'univers, etc. Jusqu'au désenchantement, diront certains. Cette désacralisation a permis l'émergence, effectivement, de techniques, d'un rapport à l'objet, de science, de choses de cet ordre-là, qui ont largement contribué à un développement économique, politique, etc. etc. Je pense que la désacralisation de la nature, de l'univers, a été un facteur qui a joué dans le développement économique. C'est un élément. Après, il y a d'autres cultures qui ont eu d'autres développements économiques aussi.
Même s'il faut reconnaître dans le polythéisme des structures, un effort pour rationaliser, pour organiser, etc., je crois quand même qu'il y a une formidable poussée de rationalité quand on passe au monothéisme, parce que je pense que ça correspond quand même à une épuration de tout ce qu'on met dans la religion, une épuration de tout ce qui est, comment dirais-je, vraiment irrationnel. Et il me semble que le monothéisme, finalement, est quand même une première forme de rationalité. Et en même temps, cette forme de rationalité a mené à l'athéisme, hein, finalement, je crois. Hein. Enfin, à l'agnosticisme et à l'athéisme, on peut mettre les deux. Je crois que ça a purifié le mystère de l'existence divine, de la transcendance en général.
Je
ne
sais pas s'il y a des réactions.
Du principe que les religions sont des constructions sociales, on peut prendre aussi l'exemple de l'Australie, qui doit être polythéiste, et qui a le système d'organisation au sein de sa culture le plus compliqué, le plus élaboré qui existe sur le monde.
Je prendrais effectivement une vue trop occidentale que d'insister sur l'aspect sur lequel vous avez insisté. Je serais beaucoup plus prudent sur ces questions-là. Quoi. Je dénie pas que les monothéismes ont apporté des éléments dans les cultures qui sont des éléments forts, quoi, mais je ne le ferai pas au détriment d'autres formes d'organisation religieuse sociale. Il me semble que... En tout cas, je craindrais de m'engager sur ce chemin-là parce que je craindrais de me faire avoir par la pensée occidentale. Je serais très prudent.
J'aurais la même prudence que vous parce que si je pense par exemple au mythe cosmogonique des Indiens Hopi qui explique de façon admirable la création du monde, je ne vois pas où il y a de l'irrationalité là-dedans, et je ne vois pas du tout en quoi le monothéisme serait plus rationnel qu'une forme de croyance. Je voudrais bien qu'on m'explique.
Ce qui est gênant, c'est une forme de pureté, je trouve. C'est ça qui est gênant, c'est pour la pureté que vous avez dit, je trouve. On a l'impression qu'avant c'est embrouillé, et puis on monte sur la pureté, c'est ça qui est gênant. Moi, ce qu'a dit Dada tout à l'heure, ça m'a vraiment révolté.
Et puis c'est le discernement progressif de ce qui est de l'ordre du concret.
Et je ne vois pas en quoi le monothéisme serait plus simple qu'un polythéisme. Parce que déjà, on parle de la Trinité, si on parle de mystère, si la mystique est complexe. Je ne vois vraiment pas, c'est à la limite plus simple de croire à des dieux, enfin, comme vous l'avez tellement bien expliqué, à un dieu qui est caché quelque part, qui est immanent, qui est un tout. Et puis on adore des formes différentes qui simplifient peut-être. Mais je trouve ce raisonnement dangereux. Je ne sais pas, j'y vois quelque chose qui me choque profondément.
Moi, ma question, ce serait, est-ce que les monothéismes se prêteraient davantage à l'instrumentalisation que les polythéismes? C'est une question peut-être un peu bête, un peu...
Non, c'est pas
du tout. Mais c'est un peu...
Non, la question n'est pas bête du tout. Non, d'abord, vous savez, il n'y a pas beaucoup de questions bêtes, il y a surtout des questions, des réponses bêtes, des questions, mais c'est pas... Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, Alors, certes, je ne saurais pas répondre, par contre, je pense, quand je regarde ce que je connais le mieux, ou un peu, quoi, enfin, si je regarde l'Empire romain, je ne suis pas gêné quand même de... Les empereurs ne sont pas gênés d'instrumentaliser le religieux, étant eux-mêmes d'ailleurs à l'intérieur, puisqu'ils étaient eux-mêmes, sinon des dieux, du moins des dieux à devenir quand même. Et quand ils faisaient l'apothéose du précédent, c'était quand même une belle manœuvre politique en général pour eux, quand ils étaient assez astucieux pour faire ce genre de choses. Donc je pense que l'instrumentalisation du religieux, elle présente qu'il s'agisse de monothéisme ou de polythéisme. Est-ce qu'il y en a un qui est plus susceptible que l'autre? Je ne sais pas. Ce qui est plus instrumentalisable, je trouve, c'est les institutions religieuses. Parce que pour les monothéismes ou les polythéismes, on fait appel à des croyances. C'est des croyances, quoi. Mais les institutions religieuses qui les organisent, qui les diffusent, ces organisations religieuses, elles peuvent être plus susceptibles d'instrumentalisation. Et ce qui est une espèce de vulnérabilité des institutions religieuses à se laisser instrumentaliser par le politique. Alors ça je trouve cette vulnérabilité est étonnante. Elles espèrent en tirer profit, je ne sais pas, sans doute, mais en fait, souvent les institutions religieuses le payent cher aux politiques. Enfin, je sais pas, là, je réagis à une personne marquée par un siècle de laïcité, donc...
Oui, il y a une question que je me pose, c'est si justement on peut poser de la même façon le problème de l'instrumentalisation pour le monothéisme et pour le polythéisme. Ce qui me semble avoir vu que le polythéisme, enfin la religion chez les Romains, justement, elle n'est pas séparable, et d'ailleurs pareil pour les Grecs, elle n'est pas séparable du politique dans la mesure où la religion n'est pas tant une relation subjective à la divinité, qu'un ensemble de règles que chacun doit suivre scrupuleusement, donc c'est l'idée de la piété. Et à ce moment-là, il y aurait donc un rôle de la religion qui est fondateur de la cité. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut l'en distinguer, et dans quelle mesure, à partir de là, on peut parler d'instrumentalisation? Par contre, dans le monothéisme, à partir du moment où la foi devient justement sentiment subjectif, rapport même de l'individu à Dieu, même si l'Église doit... et médiateur, enfin bon. À ce moment-là, peut-être qu'on peut parler d'instrumentalisation une fois que la séparation a été opérée entre religieux et politique. Enfin bon, c'est des questions, hein.
Ouais. plus, c'est des belles questions. D'abord, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que dans la religion romaine en particulier, la religion romaine, le sentiment a priori importe peu. Ce qui compte effectivement, c'est la règle. Enfin, la religion romaine, c'est ça. Bon, elle est un peu particulière quand même, là. C'est un peu l'esprit romain, ça quand même. Hein, partout aussi juridique que dans la religion romaine, quand même. Hein. Cette première remarque que vous faites est juste. Il me semble, d'ailleurs, ça deviendra insuffisant pour un certain nombre de gens, puisque quand les religions à mystère vont connaître un développement assez conséquent dans l'Antiquité tardive, pour prendre l'expression de Peter Brown, l'Antiquité tardive, précisément parce qu'il y a un déficit de sens, de sentiment, d'affect religieux. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que nous raisonnons effectivement, comme des hommes du XXe siècle, sur la religion et sur le politique. La religion, dans beaucoup de cultures, le mot n'existe même pas. Voilà. Le mot n'existe même pas. Donc, c'est une construction mentale que nous avons, quand nous disons la religion. C'est tellement lié aux choses de la vie, de la cité, etc., et de la nature, que le concept comme tel n'existe pas encore. Voilà. Donc, ça fait bien de le dire, parce que même ça nous met à distance encore plus loin. J'ai essayé de complexifier un peu monothéisme et polythéisme, mais là, vous en rajoutez une louche, quoi. Et puis, vous avez raison de dire des choses comme ça. Alors, est-ce que ça devient plus vrai après, à partir du moment où on arrive à la forme, une forme religieuse plus occidentale, plus séparée? Oui, sans doute. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où le politique et le religieux sont complètement noyés dans certaines cultures, il est difficile de parler d'instrumentalisation, puisqu'on n'est pas dans cette espèce de rapport d'altérité tel que nous, on peut le penser, et puis d'autant plus aujourd'hui. Quoi. Sans doute. Il reste quand même que la fonction politique, la fonction religieuse reste quand même distincte. Quand même. Si on a créé le mot religieux, c'est pas pour rien. Quand même, ça touche des fonctions diverses, quand même des fois exercées par la même personne, qui est à la fois le grand prêtre et le roi. Quoi, en fait. Donc cette double fonction permet quand même de poser la question du rapport de l'un à l'autre. Quand même. Donc je maintiendrai quand même la question du rapport de l'un à l'autre. Je ne me contenterai pas de dire oui, mais tout est noyé, donc quand même tout n'est pas noyé. Mais vous avez eu raison de faire tomber un peu des frontières ou des oppositions là encore binaires que l'on met un peu artificielles là, parce qu'on est les hommes et les femmes dans notre culture. Comment la question du monothéisme se posait en philosophie, dans la philosophie grecque. Alors, je vais juste citer le présocratique, tout à l'heure, une phrase de présocratique, mais après, la question va se poser, elle va se poser surtout par la question, elle va pas se poser nettement, à savoir s'il faut être monothéiste ou polythéiste, elle va se poser par la question des relations de l'un et du multiple. C'est surtout comme ça que la question se pose chez Platon, et puis encore pire, chez Plotin, quoi. Voilà. La question de l'un et du multiple. Et alors, c'est ça qui va beaucoup marquer, alors ce que vous appelez les pères grecs, les pères latins aussi d'ailleurs, qui va être marqué par ces courants de pensée, surtout platoniciens et néo-platoniciens, et sur la question de l'un et du multiple. Et qui du coup vont essayer de penser la foi chrétienne dans les catégories de la pensée philosophique. Là, on a une confrontation qui va marquer beaucoup. Ce n'est pas la seule pensée du christianisme, comme on pourrait le croire aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait penser que le christianisme a été uniquement pensé dans les catégories de la philosophie grecque. Ce n'est pas vrai. Avant que ce soit saisi dans les catégories de la pensée grecque, il y a eu d'abord un christianisme pensé et élaboré dans les catégories juives. C'est beaucoup moins systématique que avec les Grecs, parce que ça durera plus longtemps, mais dans les premières années, voire dans le premier siècle, disons, du christianisme, qui quand même reste un mouvement juif pendant longtemps, quand même. Le christianisme reste juif au moins pendant 50 ans, quand même. Il va s'élaborer dans les catégories de la pensée juive d'abord, puis après il s'élaborera dans les catégories de la pensée grecque. Voilà. Mais je suis passé très vite.
Je voudrais vous questionner sur une question au théologien. On parle sur le théologien comme quelqu'un qui explicite, qui recherche, qui approfondit le contenu de la foi. Et vous avez dit qu'il y avait une critique interne à la religion qui était un peu dont les prophètes sont de façon permanente rappellent des aspects oubliés par la religion. Alors actuellement, est-ce que la théologie peut essayer de discerner à partir de l'enseignement officiel, des enseignements officiels, les prophètes qui, précisément, veulent décaper et veulent un petit peu embrouiller les choses.
Oh là là. Écoutez, je veux dire, c'est pas au théologien de dire quels sont les prophètes, hein, parce que le théologien n'est pas habilité à ça, il n'a pas cette fonction-là. Le théologien, il a la fonction d'essayer de penser la forme, de penser aussi les catégories de la culture dans laquelle on vit, etc. De penser la relation à d'autres religions, etc. Ça, c'est son boulot. Mais c'est pas lui qui... Donc le théologien introduit de la rationalité, disons, à l'intérieur du discours de foi. C'est déjà suffisant, quand il arrive à le faire, c'est déjà pas mal. Mais les prophètes, on les voit tout de suite. C'est ce qui empêche de tourner en rond. Le prophète, c'est pas compliqué, c'est l'autre qui vient de mourir, la sœur, comment elle s'appelle, la sœur. C'est Emmanuel qui dit, moi, je me balader dans les quartiers avec des préservatifs dans ma poche. Voilà. Ça c'est la personne, je dis ça en rigolant, vous voyez bien, mais ça, c'est la personne qui, à l'intérieur même de son appartenance à une tradition religieuse donnée, pose des gestes et des actes, souvent ça se dit comme ça, plus que des paroles encore, des gestes, des actes, qui viennent gripper un peu le fonctionnement bien huilé de l'institution. Voilà. Ça, c'est bien, quoi. Il y en a besoin comme ça. Voilà. Et en principe, on les repère, parce qu'ils se font bousculer, ils sont... Voilà,
le théologien devrait pouvoir, puisqu'il scrute un petit peu et qu'il met en religion, qu'il rapproche tous les problèmes de foi et de civilisation, devrait pouvoir discerner un peu les vrais prophètes d'aujourd'hui.
Ah ben oui, on appuie dessus, oui. Ah oui, de ce point de vue-là, oui. Et ce que je veux dire, c'est pas lui qui dit tiens, monsieur Machin, vous savez, c'est un prophète. Quoi. Ça n'a pas dit normalement, c'est sauf. Hein. Évoquer les trois régulations qui sont la raison, la mystique et le prophète. Enfin, la mystique, parce que la mystique, lui, ils sont toujours les mal-aimés des institutions religieuses, les mystiques, dans toutes les traditions religieuses. Parce que eux, ils disent, attendez, de Dieu, il n'y a que Dieu, quoi. Hein. Donc, vous ne fatiguez pas trop, hein, de Dieu, il n'y a que Dieu, quoi. Et en plus, il y a un discours original sur Dieu qui déstabilise et qui perturbe ce que les institutions religieuses ont tendance à dire. Hein. Et ils finissent mal, hein. Souvent, ils finissent mal. On est dans le ferme, dans le monastère, où on finit de se crucifier aussi, vous savez. Je pense à Allah, j'ai dit dans ça, le grand mystique musulman, quoi, est crucifié à Bagdad. Bah, lui, il disait, je suis Dieu. Ah, évidemment, ça ne plaisait pas, quoi. Enfin, bon, je voulais dire que le divin habite tellement l'homme que l'homme peut être Dieu, quoi. Voilà, il dit ça, il se balade dans Bagdad en criant ça. Évidemment, il s'attirait quelques amis, enfin, il n'y a plus que quelques amis, il y a vraiment ma fille, c'est pas grave. Voilà.
Si le prophète fait des émules, attendez, ça devient sectaire.
Allez-y, parlez.
Si le sectaire fait des émules.
Le prophète, vous voulez dire.
Le prophète.
Ah, non, mais si, je vais vous dire, on ne peut jamais vivre avec les prophètes. Ils sont insupportables. Et ça arrive là, mais ça arrive là, c'est un peu vrai. Souvent, vous n'avez pas de confrérie de prof. Vous pouvez avoir des mouvements prophétiques, c'est-à-dire des mouvements qui, dans une tradition, viennent à un moment donné de l'histoire la bousculer, la tradition. Voilà. Ça arrive. Je pense dans le christianisme, par exemple, au Moyen-Âge, les cortèges d'hommes et de femmes qui en avaient marre, qui plaquaient tout, qui partaient vivre dans les forêts, tout ça. La contestation de l'ordre. Ouais, alors les anachorètes aussi. Les anachorètes, c'est ça un par un. Hein. Oui. C'est deux anachorètes à ça, mais ça marche pas. Oui, alors vous avez des mouvements comme ça. C'est vrai que les prophètes sont souvent des personnes qui, justement, parce qu'ils ont cette force de contestation, sont un peu seuls dans leur genre. Ouais. Un peu, enfin, il me semble.
J'avais une question, une curiosité. Vous avez remis un petit peu en cause tout à l'heure le principe de l'universalisme de la déclaration du droit de l'homme. Vous avez dit que les Africains, ils ont peut-être rajouté deux articles. Et vous avez parlé d'un seul article.
Je crois que les deux portées, je ne les ai pas vues. C'est Guillaume qui m'a dit ça. Je ne les ai pas vues. C'est lui qui me l'a dit comme ça. Mais je pense que les deux articles portés sont des questions de solidarité. Non, je ne sais pas plus. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, je ne vais pas revenir un peu sur l'universalisme du droit de l'homme, mais ne dites pas ça.
Non, mais ça pourrait être ouvert
voilà.
Une conception qui serait unique de cette coupe.
Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas prétendre proposer quelque chose d'universel et imposer la manière dont des cultures particulières s'en ressaisissent. Voilà. C'est ça mon propos. C'est-à-dire que l'universel, il doit toujours repasser par la particularité d'une culture, d'un groupe, d'hommes, etc. Voilà. C'est pas une manière. Ce que j'ai dit n'est pas une manière de relativiser l'universel.
Donc je comprends comme si on découvrait la notion d'universel.
Oui. Oui, je trouve que ça correspond à une forme d'enrichissement, si vous voulez. Je n'ai pas envie d'enlever les gros mots, mais le dialogue des cultures, pour moi, c'est ça. C'est ça, voilà. Voilà. Il n'y a rien que je redoute autant que ce que Derrida a appelé la mondiale latinisation. Vous voyez, c'est la mondialisation ou latinisation, vous voyez. Voilà. Il n'y a rien que je redoute autant que le rabotage. Quoi. Alors qu'il me semble que des choses comme ça, très intéressantes, qui me disent qu'on s'est rendu l'homme, c'est intéressant. Et il faut s'en ressaisir, ça. Quelqu'un qui dans la culture chinoise, qui a été bercé, qui a une telle richesse culturelle, la culture chinoise n'est pas obligée de répéter bêtement les droits de l'homme comme nous, on les dit. Ils peuvent les dire quand même dans leur mot à eux, ils peuvent le dire à leur manière à eux, et peut-être qu'ils nous apprendront quelque chose. Il me semble. C'est pas une manière de les relativiser, c'est une manière de dire laissons les cultures dire ce qu'elles ont à dire. En fait.
Alors, je me pose une question. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une convergence entre monothéisme et polythéisme qui rejoindrait un petit peu les droits de l'homme? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'au travers de ces religions, il n'y aurait pas en fait une attitude commune? Du coup, on serait dégagé de l'idée de plus l'un que l'autre, ou moins que l'autre. Ce qui compte, c'est finalement l'humanité qu'on met dedans.
Oui, mais de toute manière, il y a quelque chose de commun. Ce qui est commun, à mon avis, c'est l'expérience. Or, l'expérience de Dieu, c'est l'expérience de personne et d'aucun objet. C'est l'expérience de personne et d'aucun objet. Donc, vous voyez, le champ est ouvert pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, il y a de la place. Du strict point de vue de l'expérience. L'expérience de Dieu, c'est une expérience sans objet, si je puis dire. Du coup, c'est le théologien qui parle. C'est une expérience sans objet. C'est-à-dire que nous, évidemment, des fois, on a la représentation de Dieu, mais on a une telle représentation que tu ne dirais pas que c'est un homme que tu vas le rencontrer au coin de la rue. Quoi. Mais ça n'existe pas. Les mystiques, les gens qui ont un peu progressé dans le domaine de la foi ne peuvent pas penser des choses comme ça. Donc, ça échappe à toute représentation. Ça échappe à toute représentation. Donc, c'est une expérience. C'est une expérience dont on ne peut pas déterminer l'objet. C'est pas la seule chose. Hein. Si vous, c'est la comparaison de ce qu'est le mot. Mais si vous dites l'expérience de la beauté, par exemple, bah, la beauté, vous ne savez pas. Hein. Vous pouvez dire ce tableau est beau, d'accord. Lui à côté, il dira ce tableau est beau. Il sera froid, il dira ce tableau est beau. Pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs. On fera trois expériences esthétiques différentes. Qu'on dira, qu'on caractérisera tous les trois l'expérience de la beauté sans qu'aucun ait pu mettre la main sur l'objet. Et bien là, c'est pareil, l'expérience de Dieu, c'est ça. Il n'y a pas de prise sur l'objet. Et la comparaison est éclairante, me semble-t-il. Donc, il y a une espèce de convergence, c'est pas de doute, il y a une profonde convergence, pas de doute. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à
c'est une
réponse. Enfin, c'est une réponse.
Je voudrais revenir sur les droits de l'homme. Je voudrais revenir sur le droit de l'homme, parce que tout à l'heure vous avez dit il ne faut pas relativiser, c'est-à-dire il faut en fait que les cultures s'approprient ces droits de l'homme et les pensent avec ce qu'elles sont. Mais simplement, pour moi, il ne faut pas que ça débouche non plus sur des droits de l'homme africains, des droits de l'homme arabes, des droits de l'homme russes, des droits de l'homme. Voilà, c'est ça.
Oui, vous avez raison. Si vous voulez dire par là que chacun relativise et fait sa sauce, vous avez raison. Quoi. Si c'est une relativisation, oui. Mais si c'est une communauté internationale qui essaye de se ressaisir d'un concept comme celui du droit de l'homme pour le penser à travers les particularités des cultures, sans perdre évidemment la caractéristique d'universalité de ce concept-là, alors ça peut être intéressant. Évidemment, vous avez raison, si c'est pour que quelqu'un fasse son truc et s'oppose les uns aux autres, en plus, bien sûr, le sujet existe. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé le truc de Guillaume intéressant, que les Africains disent, façon de ressortir que nos droits de l'homme sont quand même fichtrement individualistes, les Africains, ils pointent le truc qui est juste, quand même. Ils pointent une richesse et une limite de l'Occident. C'est intéressant, c'est pour ça intéressant.
Justement, à ce propos-là, je trouve comme étant un enrichissement de la Charte des droits de l'homme et que cette nouvelle charte avec des articles à la solidarité qui viennent l'enrichir puisse être encore plus universaliste.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et donc, je serais dans ce cas-là d'accord pour enrichir les droits de l'homme avec un paragraphe concernant les Orientaux, les Chinois, les Africains et même les Antarcticiens.
Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Je ne sais pas comment il faut le faire, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vouloir que ce soit nécessairement un article qui figure. Enfin, c'est repris dans des cultures, mais ce n'est pas repris nécessairement de manière uniquement juridique aussi. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Voilà. Mais il ne faut pas que nous ayons une espèce de conception. Là aussi, c'est Debré. Il parle de Debré quand il parle. Il dit, si vous regardez les droits de l'homme, vous verrez, c'est des tables qui ressemblent aux tables de la loi de Moïse. C'est une nouvelle table de la loi. Bon, il ne faut pas que ce soit une nouvelle table de la loi, quand même. Il ne faut pas les sacraliser de cette manière-là. J'ai rien contre les tables de la loi, bien sûr, mais il ne faut pas les sacraliser de cette manière-là. Quoi. Voilà.
Et alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mise à mal d'un monothéisme qui serait l'argent pour un polythéisme qui serait les droits de l'homme?
Alors là, vous me faites penser à quelque chose de très intéressant en parlant de l'argent comme monothéisme. Et plutôt que monothéisme, je dirais plutôt religion d'ailleurs. Ça s'est beaucoup dit, ça, dans la pensée du XXe siècle. Je pense en particulier à un théologien protestant qui s'appelle Paul Tillich, qui est un grand penseur, qui dit qu'il y a des religions et puis il y a les quasi-religions. Il y a les quasi-religions, qui fonctionnent aussi comme des religions. Et qui parfois ne présentent pas évidemment la face de la religion, apparemment, mais en fait fonctionnent comme des religions, avec des dieux, avec des grands prêtres, avec des sanctuaires, etc. etc., etc. Et alors, il est bien écrit à ce moment-là, il a été obligé de quitter l'Allemagne d'Hitler en 1933 pour aller enseigner aux USA. Et il quittait évidemment le nazisme, mais aussi le marxisme, mais aussi le libéralisme comme quasi-religion, qui fonctionne, qui a son temple. C'est le temple. Je vais dire la bourse, je vais dire la bourse. C'est grand prêtre, c'est tout ce que vous voulez, les offrandes, tout ce que vous voulez, il y a tout, ça marche, ça fonctionne. L'absolu du marché, la détermination absolue avec laquelle on nous dit, ou on nous a tellement dit, on ne peut pas faire autrement. l'espèce de fatalisme, l'espèce de religion fataliste. On ne peut pas faire autrement. Moi, quand j'étais élève de ça, fatal le fatum grec, quoi. Alors, le fatum latin, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Quoi. On ne peut pas faire autrement que la loi du marché. On nous a rabattu les oreilles, on nous a gonflé avec ça pendant des décennies, et puis voilà. Et là, on va attendre un nouveau discours pour nous faire aller. Il y a plusieurs remarques, et on veut plutôt un peu de variation sur le sujet là, mais il y a plusieurs remarques qui me viennent. D'abord, Freud n'est pas le seul à avoir inventé la psychanalyse, la psychologie, en tout cas la psychologie dans la partie religieuse, et ça, ce n'est pas quand même le son mérite, mais c'est élargir nos horizons. Aux États-Unis, dans la même époque, vivait William James. Et laisser une autre forme de psychologie qui s'intéressait beaucoup à la psychologie religieuse, lui aussi d'ailleurs. Mais enfin, les sciences humaines sont beaucoup intéressées à la religion. Freud en psychanalyse, Durkheim en sociologie, etc. L'objet de la religion est un objet très, très, très intéressant pour la compréhension des sciences humaines, etc. Oui. Deuxièmement, bien sûr, c'est très intéressant. La limite de Freud et tout ça, et ça n'enlève rien à son approche, c'est cette tendance qu'il y a eu, qui a marqué déjà le 19e siècle, c'était de vouloir expliquer la religion d'un seul point de vue. C'est-à-dire, tout le monde est passé là. Les philosophes, ils sont tous passés. Et on disait, la religion, c'est... Et on expliquait. Alors Hegel a expliqué son truc, chacun a expliqué, chacun prétendait avoir une compréhension globale de la religion. Et alors Freud va apporter sa compréhension à lui par son objet d'étude qui est le psychisme. Les sociologues vont amener aussi leur truc, Marx dira c'est l'opium, l'autre dira etc. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans une prétention à avoir une définition englobante et exclusive de la religion. On est dans des approches beaucoup plus parcellaires. Mais je crois que ce n'est pas le seul domaine du savoir. Et entre-temps est passée la phénoménologie de la religion, qui nous a conduit à étudier la religion, non plus en voulant la définir une fois pour toutes de manière globale, mais en étudiant les phénomènes religieux les uns après les autres. Donc vous voyez, aujourd'hui, on ne saura plus à dire la religion, c'est une question avec son père, mais je ne sais pas quoi, je caricature sur les choses. Mais on dira, regarde, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe dans les cas de pèlerinage? Qu'est-ce que c'est que les sacrifices? Qu'est-ce que c'est que les prières? Qu'est-ce que c'est que les machins? Qu'est-ce que c'est que telle religion? Qu'est-ce que c'est que tel texte sacré? On réinterroge tous les phénomènes religieux, y compris les états de conscience d'ailleurs. On les réinterroge les uns après les autres et on tâche de progresser lentement dans la construction d'une anthropologie religieuse. Voilà. On est plutôt dans des schémas comme ça aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qu'ont apporté les philosophies et toutes leurs tentatives pour essayer de penser la religion, il n'y a rien à en reprendre, il y a beaucoup à en reprendre, mais aujourd'hui les approches se font plutôt de manière parcellaire dans le champ du savoir. Voilà.
Je pense que je peux parler assez fort.
Allez-y.
Pour confirmer ce que vous dites, dans le programme d'enseignement de philosophie des classes terminales, il y a 20 ans, on enseignait, un des thèmes, c'était la religion. Il y a 8 ans, c'est devenu le sentiment religieux. Donc on fait effectivement davantage référence à l'expérience de vécu, mais ça c'est l'apport de la phénoménologie, et je crois que c'était une bonne idée de changer, ça a changé l'esprit aussi.
Oui, il y a des changements importants dans les programmes, je pense que c'est très très important. C'est très très important parce que, bon, j'en arrive souvent de faire un peu de formation avec des enseignants, c'est très important ce qui a été initié par Lang, Gospel et compagnie sur la réforme des programmes et du fait religieux, ce qu'on appelle le fait religieux de l'enseignement. C'est extrêmement important, pas uniquement, comme on l'a dit au début, parce que la Trinité, c'est pas qu'une station de métro. Bon. Et qu'il évoque les jeunes le sachent. Mais aussi parce que la religion, les religions sont très liées aux cultures. Les religions sont très liées aux cultures. Et alors, indépendamment des croyances, c'est tout ça, ce qui est un autre aspect qui n'a pas à rentrer dans le cadre de l'enseignement, bien sûr. Indépendamment de cet aspect-là, une méconnaissance des religions, une déculturation du point de vue religieux, c'est une déculturation globale. C'est une déculturation globale. Et ça, c'est quand même embêtant pour l'avenir de la culture. Tout simplement pour l'avenir de la culture. Bien sûr qu'il y a des joies, on a quand même des grandes joies quand on a un brin de connaissances des religions, qu'on parcourt les pays, qu'on visite des musées, qu'on fait. Voilà, c'est un grand bonheur quand même, ça, la culture, c'est quand même un grand bonheur. Il faut que les générations qui viennent puissent avoir ce bonheur-là. Mais il y a plus que ça. Les religions étant des substrats, des cultures, marquant profondément les cultures. Et même si on a de la liberté par rapport aux religions, il faut que ce soit enseigné. Avec le plus d'objectivité possible, évidemment.
Ma question porte sur l'athéisme. Lorsqu'on est athée ici et maintenant, on est plus ou moins un athée monothéiste. Mais existe-t-il des athées polythéistes? Qu'en est-il de leur vie? Bien ou mal, parce que athée monothéiste, ici, moi, je ne sais rien. Je suis pas persécuté. En Inde, peut-être, il y a des problèmes pour les athées polythéistes. Et qu'en était-il dans l'Antiquité? Parce que mes souvenirs de latin, lorsque je faisais du latin au lycée, mes professeurs de latin se laissaient entendre que Cicéron, Salluste et les autres ne croyaient absolument à rien. Et que la religion romaine, c'était effectivement des règles à suivre pour l'édifice social, mais il n'y avait aucune foi là-dedans.
Ouais. Je ne sais pas répondre à votre question, parce que c'est une question qui porte effectivement sur le sentiment religieux, pour vous. Sur le sentiment religieux par rapport aux institutions. Les institutions dans d'autres religions politiques. Alors ça, je ne sais pas répondre. Ce que je pense, c'est plutôt les mouvements de contestation, comme les mouvements végétariens, par exemple, en Grèce, les mouvements végétariens en Grèce, par exemple, qui s'opposaient au sacrifice, donc qui prenaient deux fronts la religion, là, ils s'opposaient deux fronts à la religion, où ils ont été plutôt marginalisés, plutôt inquiétés quand même, ça n'a pas été tout à fait facile. Mais en disant ça, je ne comprends pas votre question, parce que votre question porte sur est-ce qu'on est inquiété quand on ne croit pas du point de vue du sentiment religieux? Mais ça me donne temps que vous avez plus de la question. Je ne suis pas capable de répondre. En tout cas, comme ça. Je sens que c'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais savoir si
merci d'avoir posé cette question, parce qu'elle me trottait dans la tête aussi. Donc, on peut remarquer que s'il y a une histoire des religions, il n'y a pas d'histoire de l'athéisme. Et on peut aussi voir qu'à travers l'athéisme, il n'y a pas de violence, alors qu'il y en a, vous l'avez évoqué, à travers le monde.
Sur une plus discret là-dessus.
De répondre que chez les Grecs, il y a Euripide par exemple qui était athée, mais dans son théâtre, il se moque des dieux, il est tout le temps par des facteurs uniquement humains, et il était joué à Athènes, et sous l'influence des philosophes, Platon, etc. Et Socrate est mort à cause, en étant accusé d'être un esprit sans l'être, mais Euripide, qui était disciple des philosophes de Platon, etc., il était ouvertement athée dans ses pièces, dans ses tragédies, il y a des vers athées, il se moque même d'Eschyle et Sophocle qui sont religieux. Donc il est vraiment athée, ça se joue au théâtre. Alors il avait moins de succès que les autres, mais il n'a jamais été inquiété.
Vous êtes sûr qu'il est vraiment athée? Parce que se moquer des dieux, ça faisait partie de...
Non, je sais.
Ça se passe bien, même pour les croyants, c'est pas pour l'instant.
Oui, je sais, il y a des gens, il est vraiment athée.
Parce qu'on accuse les chrétiens, au début d'être les athées de ces dieux-là, comme ils disent. Exactement, c'est la phrase de la Fuguesse, les athées de ces dieux-là.
Euripide,
il est philosophe. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je ne remettais pas à nous ce que vous disiez.
J'ai une autre question qui n'a rien à voir avec celle-là. En fait, c'est une question que j'ai posée la semaine dernière, mais vous avez peut-être la réponse. Vous avez parlé des chrétiens et de la jonction, de l'articulation entre chrétiens et philosophes grecs au début de la chrétienté. Et puis nous avons appris la semaine dernière, on le savait déjà, mais on nous a rappelé la semaine dernière que les textes d'Aristote, de Platon, nous ont été transmis par le biais de la culture arabe. Et ma question la semaine dernière était, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu continuité dans la culture grecque, puisque le christianisme s'est implanté en Grèce très tôt, et les écoles de philosophie ne se sont fermées qu'au 5e siècle à peu près. Donc pourquoi n'y a-t-il pas eu une continuité et préservation de ces textes et expansion sur toute la chrétienté, puisque cette expansion, il a fallu attendre la fin du Moyen-Âge pour la voir arriver.
Je ne sais pas. Ce qui me vient, c'est que je garderai. Il y a peut-être des réponses dans la salle de spectacle. On va répondre. Hein. C'est quelqu'un qui veut répondre. Hein.
Certainement le césaropapisme qui a tout bloqué à Byzance.
Ah non, on n'est pas d'accord. Non, pas encore. Non, ça aurait pu. Non, parce que des gens, par exemple, ce qui me vient, moi, c'est que ceux qui vont vraiment marquer la pensée des pères, il y a quand même quelques piliers là-dedans. Qui vont influencer tous les autres. Bon, il y a Origène, par exemple. Il y a Origène à Alexandrie. Origène à Alexandrie, c'est le second siècle. Origène, lui, il va faire école pour tout le monde grec, quoi. Alors lui, il est platonicien. Augustin, en Occident, c'est pareil, lui, il est platonicien. Donc, ces grands piliers sont des platoniciens. Alors, pourquoi ils sont platoniciens plutôt qu'aristotéliciens? Ça, je ne sais pas répondre. Vous avez été plus marqué par cette culture-là. Bon, à Alexandrie, c'est sûr que déjà, Origène, qui a grandi dans ce contexte-là, a grandi dans un contexte platonicien. Ça, c'est sûr. Donc, il est nécessaire. Donc, il a été plutôt platonicien. Je ne sais pas dire. Effectivement, la philosophie d'Aristote ne marque pratiquement pas les pères. Ce qu'on appelle les pères des 4 ou 5 premiers siècles. Effectivement. Je crois que ça tient au leader, qui était dans des sphères d'influence, des sphères platoniciennes. Et puis, il y a autre chose qui vient. Ça tient beaucoup à ce que. C'est Alexandrie qui me fait passer ça. Ça tient assez beaucoup aussi à ce que les juifs s'étaient confrontés à la philosophie déjà, à la philosophie grecque. Et ils étaient confrontés à la philosophie platonicienne. Et les penseurs juifs ont influencé. Origène, par exemple, il est influencé par Philon d'Alexandrie. Donc, c'est cette prolongation aussi du judaïsme, finalement. De la réflexion juive, on va retrouver dans la pensée chrétienne. Ça ne répond pas à tout, ça donne deux éléments.
On peut peut-être répondre aussi simplement par la force de l'idéologie dominante, parce qu'au moment même où Platon développait sa doctrine, il y avait toute une école de philosophie, je pense au jardin d'Épicure, qui était complètement déconsidérée. D'ailleurs, on racontait n'importe quoi sur ce qui se passait dans cette école de philosophie d'Épicure, qui se référait à Démocrite, donc au penseur antérieur à Socrate. Et je crois que la force de... Ça ne convenait pas à la pensée de l'époque, de même que peut-être certaines représentations du cosmos qui anticipaient sur l'héliocentrisme ne convenaient pas non plus. Donc ça, c'est peut-être simplement la force de... ce qu'on pourrait appeler en termes marxistes l'idéologie dominante. Les gens n'étaient pas mûrs pour accepter ces idées-là. Donc celles qui ont continué sont celles qui se sont affirmées, qui ont été la source des autres pensées, des pensées successives. Platon, les néoplatoniciens, et puis Aristote complètement passé à la trappe jusqu'au XIIIe siècle, quand il arrive à l'université de Paris. C'est une idée.
Oui, voilà, je crois que c'est, sur des questions comme ça, il n'y a pas une approche, d'ailleurs, il y en a plusieurs, là, on est tout à l'heure sur des approches plutôt historiques, mais après, il y aurait d'autres approches, sur sans doute, parce que pourquoi Aristote, ça a bien pris au XIIIe siècle, et voilà. Là aussi, il y a d'autres questions. Je ne sais pas que ça ne se laisse pas régler par un seul type de réponse ou par une seule discipline.
Je voulais juste dire que c'est un peu ces questions-là que j'ai abordées la semaine dernière. Et moi, ce qui me semblait, puis bon, ce que j'ai pu en lire, et les recherches que j'ai pu faire, justement, et que j'ai essayé de montrer la semaine dernière, c'est que le platonisme était quand même plus facilement accommodable avec la religion chrétienne que la philosophie d'Aristote. C'est-à-dire que chez Aristote, il y a quand même une critique du monde des idées platoniciens, il y a une philosophie finalement... Donc chez Platon, il y a la possibilité, même à la limite, d'une mystique, et c'est de cette façon que Plotin l'interprétera avec le néoplatonisme. Donc, ce que j'avais lu aussi, c'est que le premier Aristote était encore très platonicien, et qu'à l'époque, ce qui circulait comme texte d'Aristote couramment, c'était les tout premiers textes qu'il avait écrits, qui étaient en fait des lettres, et qui étaient, où il n'avait pas encore critiqué le platonicien des idées, l'idée du bien en soi, qui croyait le monde intelligible, etc. Et en fait, il y en a beaucoup qui ne connaissaient que ça d'Aristote. C'est bien que, alors ce que dit aussi par exemple Gilson, qui est spécialisé au Moyen-Âge, c'est que justement l'Église a été très inquiétée par la réapparition des textes d'Aristote au XIIe siècle, vers l'agroïsme. Et la thèse de Gilson, c'est que, donc c'est un spécialiste du Moyen-Âge, c'est qu'en fait, la naissance de la théologie, c'est une façon que l'Église, finalement, de reprendre dans son giron les textes d'Aristote pour les accommoder avec la foi chrétienne, mais qu'il y a eu quand même un moment où les textes d'Aristote ont été interdits. Au début, quand ils sont apparus, l'Église a commencé par les interdire. Donc Gilson, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il y a justement dans l'aristotélisme un rationalisme beaucoup plus dangereux pour la foi que certains aspects du platonisme qui ont été retenus par le christianisme, qui n'a pas retenu tout de Platon, qui a pris dans Platon ce qui pouvait s'accorder le plus facilement finalement avec les thèses chrétiennes. Ah bon, voilà, c'était pour rappeler un petit peu. Oui. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'avais essayé de montrer un certain nombre de choses la semaine dernière.
Pareil,
évidemment, pas réponse à tout.
Ah oui, c'est des questions très compliquées. Ça. Effectivement, moi, je comprends bien ce que vous dites sur le platonisme ouvre des possibilités à la mystique que l'on trouvera de plus difficilement dans l'aristotélisme et sa reprise thomiste, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est sûr, Quand on regarde les grands courants mystiques, ils sont tous liés plutôt à des gens qui sont platoniciens, quoi. Il me semble, je ne crois pas que vous avez dit ça. Voilà. Ceci dit, après, la théologie, je ne sais pas si Gilson dit ça ou si si c'est en s'exprimant que ça parle comme ça. Ceci dit, la théologie ne commence pas au Moyen-Âge, quand même. La théologie, elle commence aux origines. Voilà. Après, ceci étant la synthèse que fera Thomas d'Aristote et de la foi chrétienne, va quand même être une synthèse qui va avoir un sacré succès, quand même. En fait. Il faut le dire comme ça. Hein. Qui aura beaucoup d'avatars aussi. Hein, en fait.
Alors, je tenais à remercier nos trois intervenants de cette première partie de mon cours, donc Pierre Angelène, Jamie et puis Christian Salançon, d'avoir entamé avec nous cette aventure. Donc, nous avons déjà un premier module de Rouquier. Nous avons maintenant le petit break, comme on dit, des vacances. Alors, c'est pas qu'on a plus qu'à aller sur les vacances scolaires, mais c'est que les salles de Pavillon Roudin ne sont pas disponibles pendant les vacances scolaires. Donc c'est pour ça que pendant 15 jours, hein, nous n'aurons pas de cours et nous allons recommencer. Alors, j'ai plus.
24 février. Voilà. Michel Naudet, Préhistoire de la laïcité.
Qui est ici présent. Tu veux peut-être.
Il ne s'agit pas bien sûr de parler de la laïcité, puisque l'histoire de la laïcité était par Michel Mossard, mais simplement de voir un petit peu les éléments qui ont pu surgir tout au long d'une très longue durée, qui ont rendu possible cette éclosion de ce que Bobéro appelle la première laïcité, le premier niveau de laïcité, et puis alors arriver jusque, disons, à l'éclosion de la laïcité avec les polémiques des années 1880. Hein. Alors, donc on verra ça plutôt en deux parties. Hein. Tout d'abord, un long trajet jusqu'à la deuxième, édit de tolérance, 1787, et puis après, donc, l'accord. Enfin, comment ça s'est passé sur la Révolution française et l'arrivée, donc on a déjà cité tout de suite, comme une enceinte, donc on va poser des jalons à partir de les autres français. Ce qui ne veut pas dire que ça, qu'il y a une laïcité, que la France soit fédérée de la laïcité, il y a d'autres formes de laïcité.